Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre d'une série de reportages sur la commune d'Ayen, je suis aujourd'hui chez Jean-Louis et Alexandra Fardel, dans le village de Saxonne, dans cette même commune. Une première question, comment est-ce que vous êtes connus tous les deux? Est-ce que vous êtes connus déjà dès l'enfance?
On s'est connus dans les Moyens d'automne. Lui, il allait garder ses vaches et moi, j'ai gardé les miennes et on s'est retrouvés là-haut. Et après, on a continué à se voir. Et puis voilà.
Alexandra, vous m'avez dit en préparant cette interview que vous êtes allée à Bâle durant environ 2 ans. Est-ce que vous étiez déjà mariée? Est-ce que vous étiez déjà fiancée ou...
Non, j'avais 16 ans. De 16 à 18 ans, j'étais à Bâle. J'étais au Clara Spital. C'était les sœurs Dingenbol qui nous éduquer et on est resté là pendant 2 ans, ma soeur et moi. Au début, on faisait le ménage et après, la deuxième année, on a fait aide infirmière. Et puis, on était très surveillés parce qu'on n'avait pas 18 ans. Il fallait être rentré tous les soirs avant 10 heures. Il fallait aller à la messe tous les jours. Alors, on a su ce que c'était la religion. Ouais.
Quel souvenir vous en gardez? Est-ce que c'était trop strict ou quand même vous avez
Non,
apprécié?
j'ai apprécié parce qu'on a appris l'allemand et on travaillait avec des Italiennes. Alors, si bien qu'on parlait les trois langues, le français, l'allemand, l'italien, sans problème. Et c'était quand même une période où on a appris à vivre.
Et pourquoi est-ce que vous êtes revenu en Valais?
Je suis revenue en Valais parce que mes parents avaient de la campagne, du bétail, et ma mère était malade et mon père travaillait. Alors je suis revenue pour m'occuper de la campagne et des vaches et des jardins et tout. Maintenant, quand je pense, je dis, comment maintenant les gens reviendraient pour faire ça? Moi, mon rêve, c'était de faire infirmière. Et comme ça, on n'a rien pu faire.
Donc, vous avez quand même un petit regret avec le recul ou
Quand
pas?
même un petit peu. Quand même un petit peu, oui. Alors, je suis restée à la maison là, pendant 2, 3 ans. Et puis après, j'ai connu Jean-Louis. Alors, je me suis mariée avec Jean-Louis. J'ai plus pu m'occuper du bétail. C'est ma petite sœur qui a pris le relais. Mais elle était plus volage. Le dimanche soir, elle ne venait pas. Le samedi soir, elle ne venait pas. Si bien que ça n'allait pas. Alors, ils ont tout vendu. Et ma mère, elle pleurait, elle n'avait plus de vaches. Et puis, comme ça, c'était terminé la campagne.
Et vous, Jean-Louis, quelle formation vous avez fait au sortir de l'école?
Moi, comme la plupart à l'époque, issu d'une famille nombreuse de 8 enfants, les parents n'avaient pas le moyen de faire l'apprentissage. Donc, mon père était maîtral dans les vignes, c'est-à-dire qu'il engageait des ouvriers. Alors, j'ai travaillé la vigne jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ensuite, j'ai fait un permis de conduire pour devenir chauffeur-livreur.
Donc vous avez été longtemps chauffeur-livreur ou...
Ensuite, j'ai commencé comme chauffeur-livreur dans une maison de glace tessinoise qui avait un dépôt en Valais durant 3 ans. Et puis, je suis devenu tout de suite représentant. Et par la suite, chef de vente de la Suisse romande pour cette même maison. Si bien que j'ai eu la chance de voyager dans tout le Valais et la Suisse romande. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est formidable. Je connais à peu près tous les bistrots de Suisse romande, tous les villages, toutes les routes, les vallées. Je sais combien de temps il me faut pour aller à Champéry ou à Bourg-Saint-Pierre. Et ça, c'était une très belle aventure.
C'est aussi un métier de contact, bien entendu.
Absolument, oui, le métier de contact. Lorsqu'on a une clientèle, les clients en Valais sont en principe assez fidèles. Les clients deviennent des amis. Et puis, c'était vraiment une belle expérience, oui.
Vous avez eu 3 enfants. Qu'est-ce qui a été facile dans l'éducation? Qu'est-ce qui a été plus difficile?
Moi, ça a été facile. C'était facile. J'étais à la maison et je m'occupais des enfants. Et puis, la vie était facile, la vie était belle. Très belle. Et on partait en vacances toutes les années au bord de la mer. Et c'était très bien.
Oui, je dois
Jean-Louis.
dire que
C'était très bien.
bravo Alexandra, parce que moi j'étais souvent absent. Comme je la Suisse romande, je suis allé aussi au Tessin une fois par mois en conférence. Donc très souvent, je rentrais tard et le lendemain, je repartais sur Lausanne-Genève. Alors c'est beaucoup Alexandra qui a fait. Mais comme elle dit, on a voyagé parce qu'on avait le contact avec des gens, on a eu des adresses pour les vacances, si bien que nos enfants à 15 ans avaient déjà vu Paris, Rome, la tour de Pise, Venise et les îles...
Jolie.
Belle-Île-en-Mer.
L'Idèle, Belle-Île-en-Mer, la Corse, la Sardaigne, beaucoup de choses.
À l'époque, c'était beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui.
Oui, beaucoup moins, je pense. On voyageait moins. Il y en avait très peu qui avaient fait ça. Alors, on a toujours été des grands voyageurs. On a continué durant 50 ans à aller à bord de la mer et faire des vacances balnéaires, comme c'était un peu l'époque.
Mais les enfants sont venus avec nous en vacances jusqu'à passer 20 ans. Hein. On partait tous ensemble.
Vous avez un souvenir peut-être très drôle, très particulier avec vos enfants qui vous viendraient en tête? J'imagine qu'il y en a beaucoup.
Oui, il y a quand même quelque chose de particulier aujourd'hui que les gens ont de peine à comprendre. C'est que moi, on m'avait dit que lorsqu'on allait en vacances en Italie, un peu après la saison, on pouvait marchander le prix de l'appartement. Si bien que je partais avec... deux enfants dans la voiture et mon épouse, et puis on n'avait rien réservé. Alors, je passais d'une agence à l'autre, d'un village à l'autre, pour chercher un bungalow. Et les enfants qui étaient fatigués, je revenais, je signe. J'ai trouvé, j'ai pas trouvé. Mais ça s'est toujours bien passé, on a toujours trouvé une résidence. Mais donc, c'est assez particulier, je crois qu'aujourd'hui, personne part sans réserver.
Et vous, Alexandra, un autre souvenir qui vous vient en mémoire?
Alors, quand on a eu le garçon, quand on revenait d'Italie, tous les tunnels, il regardait le nom des tunnels et les kilomètres, il inscrivait tout ça sur un billet. Mais il était petit, hein.
4-5 ans.
4-5 ans, il savait lire, écrire à 4-5 ans. Hein. Et puis, on passait des vacances extraordinaires. Tous les soirs, on allait... manger la glace, en carrousel, et non, c'était une vie extraordinaire. On était très, très bien.
Vous êtes maintenant retraité. Est-ce que, pour vous, ça a été un passage un petit peu difficile quand même, ou pas du tout?
Non, c'était un peu préparé, on dit, on doit se préparer à la retraite, et comme on fait tous les deux de la marche, on a eu l'idée, juste après ma retraite, pour faire une coupure, on a fait le chemin de Compostelle. Alors ça, c'était une super aventure. On a fait la Via Podiensis qui va du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle. C'est 800 km en France et 800 en Espagne. Alors voilà, comme de vrais pèlerins, sac au dos. Et puis, on est parti en juillet 2003. Malheureusement pour nous, c'était les années de canicule. Alors, on a eu marché par 40 degrés. Alors, c'était assez pénible pour des questions de chaleur et puis de soif.
Alexandra, vous m'avez dit au téléphone que vous aussi, vous avez beaucoup apprécié ce...
Moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai pas eu de problème, mais mon mari, il a eu les pieds. Il avait les ampoules dans les pieds, il avait les pieds en vive chair. Et moi, j'ai rien eu. Le problème, c'est le poids du sac. Au départ, tout le monde nous dit « attention au sac ». Et nous, moi, j'avais 13 kilos et toi, 17. Mais c'est de la folie. Il faut jamais faire ça. Mais puis, on avait des gros souliers de montagne. Jamais les gros souliers. Et les gens nous disaient, mais nous, on a dit, c'est pas lourd. Mais c'était quand même extraordinaire. On a dormi dans des corridors. On a dormi dans des églises. On a dormi. Des fois, il n'y avait plus de place. Mais c'était, quand on est arrivé là-bas, on a pleuré tous les deux. C'était, lui, il a perdu 10 kilos et moi 5. C'est la meilleure cure à maigrissement.
Gratuite.
Non, c'était... Et puis l'année après, on est parti depuis ici, depuis la maison, jusqu'au puits. On a mis 20 jours. Et l'année après, on est reparti du Vézelay.
Chemin du Nord.
On a mis 40 jours jusqu'à Lourdes. Et l'année après, on a pris le train jusqu'à Arles. Et bien alors, on est venu en vélo. En vélo jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et après Biarritz.
Donc là, vous avez mis le vélo dans le train jusqu'à...
Jusqu'à Arles. Et puis après, on est venu à Biarritz le 15 août. Aucune chambre. On avait la toile de tente en cas de camping complet. Auberge jeunesse, on voulait tout complet. Et ils ne nous ont pas laissé camper aux alentours parce que c'était dangereux. Alors on était là au bord de la mer, les deux, en tenue de vélo. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a une dame qui s'est approchée de nous, qui a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « On cherche quelque chose pour dormir. » Alors elle a dit « Oh, moi je connais un petit hôtel, venez avec moi, vous suivez derrière la voiture. » Et tout complet, tout complet, tout complet. Alors elle a dit « Venez chez moi, j'habite à Urth. » Je ne sais pas si vous connaissez Urth. C'est à
25 km de Bayonne.
25 km de Bayonne. Et ça a commencé à faire nuit. Et on a pédalé, pédalé, pédalé jusqu'à Urth. Et cette dame, elle nous a invités chez elle. Elle nous a fait un souper sur la terrasse le 15 août. C'était magnifique. Je me rappelle qu'elle a donné du fromage avec la confiture de cerise pour dessert. Et puis après, finalement, on a pu camper à Urth parce que c'est un village
en dehors.
Et depuis, on a tout le temps des contacts avec cette dame. J'ai dit, madame, vous n'êtes pas peureuse d'accueillir deux personnes que vous ne connaissez pas. Et maintenant, j'ai encore téléphoné la semaine passée. Et quand j'allais à Lourdes, elle venait me trouver.
Ça fait combien d'années maintenant?
C'était en 2008.
Quand même une douzaine d'années, 12-13 ans.
On a toujours le contact.
On a refait en vélo encore une autre fois, ensuite jusqu'à Compostelle. Le vélo est un moyen très intéressant. À Lourdes, il y a un tiers de pèlerins qui vont en vélo. Mmh, mmh. Alors moi, j'appréciais surtout parce que je transpire beaucoup en marchant. Mmh. En vélo, on transpire beaucoup moins. On se déplace plus rapidement. Il n'y a pas le poids du sac.
Ouais. Ah,
et ça, c'était le grand avantage par rapport à la marche. Par contre, pour faire la connaissance des gens et des régions, c'est beaucoup mieux à pied.
À pied, c'est
excellent. Vous avez vraiment le contact. Oui. C'est très instructif. Vous apprenez des tas de choses.
Et justement, tout le monde dit que le contact est assez facile sur les lieux, sur les chemins de pèlerinage, parce que les gens sont soit assez solidaires, la discussion est facile, parce que tout le monde est un petit peu dans le même bain.
Tout à fait. Entre pèlerins, vous vous trouvez avec 30 nationalités différentes, le soir dans l'Égypte. Et chacun donne ses expériences et c'est enrichissant ses contacts. Et aussi avec dans la région que vous passez, vous savez, après où se fait le foie gras et où il y a telle ou telle spécialité, d'où est venu le nom Armagnac. Dernièrement, j'ai appris que c'était le plus ancien alcool de France. Et à l'époque, les pèlerins, il faut penser que le premier pèlerinage a été fait en l'an 900 par l'évêque du Puy-en-Velay. Et les gens arrivaient au village d'Armagnac, ils étaient tellement fatigués, les gens là-bas leur donnaient une boisson que les pèlerins ne savaient pas. Et après, ils parlaient entre eux, ça leur a redonné de la vie. C'est pour ça que c'est venu Eau-de-Vie.
Ah, voilà.
Et Eau-de-Vie est devenu ensuite l'Armagnac qu'on connaît aujourd'hui. On a aussi traversé le village de Figeac, où il y a
Champollion,
le musée de Champollion.
Donc lui était né à
il est né village. Là-bas, donc ouais. Tout le monde connaît Champollion qui a connu l'hiéroglyphe sur la pierre de Rosette, c'est lui qui a découvert cette écriture. Voilà, c'est toutes des choses comme ça très instructives tout le long du chemin.
Et puis les vaches, elles étaient belles, elles avaient les cornes en forme de lyre et les yeux en forme d'amande et la peau couleur brune, c'était magnifique. C'était extraordinaire le voyage. Moi, je rêve encore. Hein.
Et quel est le dernier voyage que vous avez fait?
Donc, par la suite, après avoir fait durant 8 ans ces marches et ce vélo, on a aussi un camping-car.
Ah, d'accord.
Alors, ça a un peu changé la donne. On a toujours marché, mais c'est des marches différentes. Donc, avec le camping-car, nous partons surtout l'été dans différentes régions, la France, l'Italie. Et puis là, alors, on a un peu notre programme. Avant les grandes chaleurs, on fait les vallées du Val d'Aoste, on a fait toutes les vallées. Alors on fait des marches, puisqu'on stationne notre camping-car au fond des vallées, où il y a toujours des places ou des campings. Et puis après, quand il y a moins de gens à la mer, on descend à la mer. Comme ça, on a tout ce qu'il faut avec le camping-car, il y a tout ce qu'il faut, il y a le vélo, il y a les chaussures de montagne, il y a les affaires de bain, on peut tout faire avec. Et depuis, alors, c'est une grande partie de l'année, on est en balade avec le camping-car. Sauf l'hiver. L'hiver, on fait encore du ski, alors on le réduit.
Bien, on va parler maintenant d'un autre de vos loisirs, c'est la chorale. Vous faites les deux parties du chœur valaisan des patoisans. Pourquoi ce chœur-là? Pourquoi en patois?
C'est-à-dire que nous, on a pratiqué le patois. Dans notre jeunesse, on a parlé et surtout appris avec nos parents qui parlaient tout en patois. Et en 2015, on a fondé un chœur patoisan. Et j'avais un ami qui avait commencé puis qui m'a encouragé de venir avec lui. J'ai toujours aimé le patois et chanter. Comme je chante à la chorale d'Ayen, je me suis inscrit dans cette chorale qui réunit les patoisans de tout le Valais. Il y a surtout de Val d'Anivier jusqu'au Val de Bagne.
Et vous répétez à quel endroit?
On répète à Sion actuellement une fois tous les dimanches soirs, tous les 15 jours. Et là, on avait fait en 2016 la fameuse messe en patois à la cathédrale de Sion. Il y a eu des reportages là-dessus, il y avait plus de 1400 personnes qui sont venues entièrement en patois, entièrement le prêtre qui était saviezan, qui parlait le patois. Et la messe a été écrite par Amédée Nanda, c'était un prêtre d'Hérémence qui lui était parti en mission. Donc quand il est revenu, il avait encore un meilleur patois puisqu'il n'a pas francisé son patois, étant absent durant de nombreuses années. Et puis il y a 2 ans, Alexandra m'a rejoint puisque c'est un chœur mixte. Alors maintenant, nous sommes très heureux de faire partie. Malheureusement, on a été bloqué à cause de la Covid durant une année et demie, 2 ans. Puis cet automne, on a recommencé. Alors voilà, pour un prochain concert au mois de mars au Châble.
Joli. Jean-Louis, vous faites aussi partie d'un groupe de corps des Alpes, l'Écho des Vallées. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à faire du corps des Alpes et à quel âge?
Ben, j'avais presque 50 ans, j'ai entendu une fois le corps des Alpes, ça m'a pris aux tripes. J'ai trouvé que c'est un instrument qui donne de l'émotion. Ouais.
Et puis, tu as commencé comme ça. Moi, j'étais invitée à un mariage où il y avait des Ayanto qui jouaient du corps des Alpes. Et puis moi, j'ai dit, oh, mais Jean-Louis, il aimerait bien faire du corps des Alpes. Alors, ton ami Edouard, il a dit, mais qu'il vienne la semaine prochaine. Alors, il est allé la semaine prochaine, c'est comme ça que ça a commencé.
Oui, j'avais commencé après 50 ans, c'était assez particulier parce que, heureusement, je connaissais les lectures musicales avec la chorale, mais par contre, le travail de l'embouchure, n'étant pas musicien, durant quelques années, c'était assez difficile. Il faut énormément travailler. Le corps des Alpes, vu qu'il n'y a pas de piston pour changer de tonalité, c'est qu'avec les lèvres, tout se fait dans les lèvres. Ouais. Alors cet énorme travail pour changer les notes et sentir les différentes tonalités.
Vous avez pris des cours ou...
J'ai pris avec... On avait un directeur dans le groupe alors, qui m'a bien enseigné. Et puis surtout, j'ai pu intégrer le groupe assez tôt. Alors j'ai suivi mes camarades durant quelques années. Et puis maintenant, depuis quelques années, ça va très bien. J'aurais bien assumé ma partition.
Est-ce qu'on ose vous demander combien d'années de mariage vous avez?
57 ans.
Alors la question qu'on vous pose peut-être souvent, est-ce qu'il y a un secret pour rester aussi longtemps? Comment est-ce qu'on fait dans les moments peut-être un petit peu plus difficiles?
Nous, voilà. On a une chance peut-être que c'est assez rare dans les couples que on fait tous les deux tous les sports. Elle fait du ski, on fait du ski, on fait de la marche, on fait de la nage, on aime le vélo. Enfin, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup. Parce que si vous n'avez qu'une seule personne qui aime faire la marche et l'autre reste à la maison, ça pose des problèmes. Et heureusement, Alexandra, elle a fait tous ses sports, et si bien que ça soude aussi de faire différentes choses. On a surtout des marcheurs, on marche pratiquement tous les jours, 2 heures de temps, après-midi et l'été, lorsqu'on est avec le camping-car, et l'hiver, on fait quand même tous les jours 2 heures de marche.
Alexandra, vous avez une explication supplémentaire à ce long mariage?
Mais alors, quand il a eu 50 ans, j'ai acheté 2 vélos à chacun. pour monter la pente. Ici, j'arrivais pas. Et puis après, quand la retraite, il avait 62 ans, tu avais. J'ai dit, maintenant, on part à Compostelle. Et lui, il est d'accord. Mais on est toujours d'accord. Hein.
Une chance.
On a les mêmes idées et on est toujours d'accord. Et pendant, lui, il dit, moi, j'ai pensé ça, et j'ai pensé la même chose. Mais on se chicane jamais. Hein. Moi, je dis, on a la vie de château. Toi, je ne sais pas si tu dis la même chose.
Ah oui, tout à fait. Oui, non,
on est tellement bien chez nous.
La chance aussi, la santé, c'est très important. Il y en a qui malheureusement ont moins de chance, et puis d'autres qui se laissent un peu peut-être trop aller, avec voilà, trop oisif. Je conseillerais à tout le monde de sortir, de bouger, c'est très important pour le corps et pour la tête, et de faire partie des sociétés. Moi j'ai 3 répétitions la semaine, mais je suis bien, je pourrais même en avoir une 4e. Il faut que je sorte, que je bouge. Elle aussi, elle aime beaucoup le contact. Il ne faut pas rester oisif.
Non. Alors, le mardi soir, il va à la chorale et moi, je vais à la gym. Alors, on est dehors en même temps.
Jean-Louis et Alexandra, on va passer maintenant à un autre chapitre, celui de la commune où vous habitez, Ayen. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette commune? Est-ce qu'il y a une chose qui ressort particulièrement?
Moi, j'aime bien les fêtes villageoises. J'aime bien la fête Dieu. J'aime bien la Pentecôte, où on distribue le pain et le fromage. J'aime le carnaval aussi, où on s'amuse.
C'est surtout la situation de la commune, proximité de la ville de Sion, station touristique Anzère et de Montana, donc un ensoleillement super. Et toutes les sociétés, comme dit Alexandra, sociétés de tradition et sociétés que nous sommes actifs aussi.
Les gens continuent de venir au bistrot, en général, à Ayen.
Ça se perd un peu. Bon, on a eu cette période aussi, maintenant, avec ce Covid. Là, j'ai l'impression que...
Ça a cassé quelque chose.
Ça a un peu cassé. Puis, oui, il y a de moins en moins de rencontres, de tables, comme auparavant, où on pouvait parler encore en patois dans une table.
Mais avant le Covid, moi, j'allais tous les matins boire le café. Et lui, il allait aussi avec ses amis. Et depuis le Covid, c'est fini, je n'ai plus été au café. Le dimanche après la messe, maintenant qu'ils ont de nouveau ouvert, parce qu'il va chanter la messe, alors je vais à la messe avec lui, et je vois mes copines le dimanche après la messe, mais autrement, non.
On a parlé des points positifs. Est-ce qu'à l'inverse, il y aurait peut-être un vœu particulier, quelque chose qui manque, peut-être pour les jeunes ou pour
la commune ? Oui, justement, dans cette partie... Ça manque un peu dans le culturel. Il n'y a pas de société de théâtre. Et là, on peut être... Maintenant, il y a une société de jeunes, comme j'ai appris, c'est très bien. Mais la commune pourrait faire davantage au niveau culturel. On a une commune de 4000 habitants maintenant. On pourrait faire un effort là-dessus.
On parle beaucoup de fusion. Quel serait votre avis? Est-ce que vous seriez pour une fusion avec une d'autres communes?
On a des proximités avec Arba, puisque anciennement Arba faisait partie de la commune d'Ayen jusqu'au XVIIIe siècle. On a de bonnes affinités avec eux et je pense qu'avec Arba, ça peut se faire assez rapidement. Ensuite, il y a Grémisois aussi, on a proximité, mais je pense que les fusions, ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est peut-être le politique ou les circonstances de coût. Pour chaque commune, à la fin, on parle plus que d'aglo et on est toujours plus grand pour économiser des frais de gestion. Et je pense que les fusions viendront plutôt d'en haut que du citoyen.
Alexandra, vous avez un avis particulier?
Moi, je trouve que pour les jeunes, ils doivent avoir un peu plus de loisirs parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein.
La fusion pourrait amener un peu plus de loisirs.
Il y a les fanfares, il y a les chorales, Oui, la fusion, oui.
On pourrait donner une caractéristique commune aux Ayentaux, est-ce par rapport aux communes avoisinantes? Est-ce qu'il y a des traits de caractère qui se retrouvent plutôt chez l'Ayentaux, qui n'auraient peut-être pas à Grémisua ou c'est du...
Oui, l'Ayentaux est un peu hésitant. Ouais. Il est un peu hésitant. Il a tendance d'attendre que l'autre se casse la figure pour se foutre de lui plutôt que d'être au premier rang. C'est peut-être un peu le point faible des Ayentaux.
Les points forts?
Point fort, oui. quand même courageux et puis assez entreprenant. On a eu beaucoup de personnes d'ailleurs qui travaillent dans les médias. Ça, c'est aussi quelque chose qui est positif. Donc, sont aussi sortis un peu de.
Un ou deux noms.
Romain Jean. Et puis Ducé, Flore Ducé. On a la Morard aussi. Elle est tous les matins à la radio. Pierre Armand Ducé aussi qui fait des reportages pour Canal 9.
Romain Morard.
Écoutez, il me reste à vous dire un grand merci pour cet accueil et à vous souhaiter le meilleur pour la suite.
Ça fut un plaisir pour nous aussi.